Grande Interview. L'actualité en profondeur sur Radio Capice et dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les spécialistes et les acteurs qui font l'actualité. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, 13h05 et 19h35.
Bienvenue encore une fois dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler des veuves. Comment rendre autonomes les veuves? En République démocratique du Congo, de nombreuses femmes sont abandonnées à leur triste sort après le décès de leur conjoint. Elles sont dans bien des cas dépossédées de tous les biens et livrées à elles-mêmes, parfois avec des enfants en âge de scolarité. Alors, faute de moyens, la plupart d'entre elles, ces veuves, se lancent dans la mendicité ou survivent grâce à la générosité des personnes de bonne volonté. Alors comment est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui à rendre autonomes les veuves? On en parle avec Madame Mado et Kenewa Maluka. Encore une fois, Madame, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans cette émission Capi Service. Vous êtes responsable promotrice de l'Union des Reines Veuves du Monde. Alors, c'est quoi l'URVM ou l'Union des Veuves Reines du Monde? Qui sont ces reines?
Merci beaucoup pour votre question. Comme le nom le dit si bien, l'Union des Reines Veuves du Monde, ce sont les veuves du monde, parce que nous ne voulons pas seulement parler de veuves de la République démocratique du Congo, mais plutôt de toutes les veuves dans le monde, spécialement en Afrique, en Asie et ailleurs. Si nous les avons appelées ainsi les reines
des
veuves,
reines, oui.
Oui, c'est ça exactement.
En quoi elles sont des reines?
Oui, elles sont des reines exactement parce que ce sont des personnes exceptionnelles que les gens négligent. Parce que nous sommes tous peut-être croyants et nous savons que Dieu tient beaucoup aux veuves. Parce qu'il a dit dans sa parole, celui qui aide la veuve aura sa bénédiction. Celui qui aide l'orphelin aura aussi sa bénédiction de la part de Dieu. Or, nous savons que la veuve est intimement liée aux orphelins, à moins qu'elle fût stérile. Mais je crois que toutes les veuves, dans la majorité de cas, ont des responsabilités des enfants. Alors, je voudrais d'abord, pour commencer, saluer toutes les veuves du monde, et surtout dans tous les pays où l'URVM est déjà implanté, en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, aux États-Unis, au Canada, dans plusieurs pays du monde, et surtout toutes les veuves aussi de mon pays, de la République démocratique du Congo, et de toutes les 26 provinces.
Alors, Madame Mado, dites-nous pourquoi, généralement, les veuves sont abandonnées à elles-mêmes et elles vivent dans des conditions difficiles?
Oui, moi je crois que c'est le problème d'abord des mentalités de notre pays, et parce que pour préparer le veuvage, il faut d'abord bien vivre dans son ménage. Et je crois que dans la plupart des cas, les veuves ne connaissent pas leurs droits. Et ceux qui connaissent les droits, ils sont peut-être plus forts que la veuve, mais ce sont ceux-là les mêmes qui aujourd'hui sont en train de brimer les veuves. Tout en oubliant que la mort...
Même les gens qui étaient gentils avec elle avant la mort de son mari,
Vous le dis, c'est surtout ceux-là qui étaient gentils, qui étaient reçus comme des princes et des princesses, et ce sont ceux-là qui sont les premiers à brimer les veuves. Alors, je voudrais dire ici, pendant que la femme est encore sous les toits conjugales, parce que la mort est impersonnelle, ça peut arriver à l'homme tout comme à la femme, mais aujourd'hui nous parlons de la femme parce qu'elle est la plus faible, elle doit être protégée et d'ailleurs la loi la protège plus que l'homme. Et nous voudrions que cette femme-là connaisse la loi, connaisse ses droits. Les droits de la veuve, les droits des orphelins, le droit après la mort du mari. Alors, moi je voudrais ici que le veuve puisse aussi, connaître leurs droits. Parce que si elles ne connaissent pas leurs droits, ça sera un peu difficile.
Quels sont leurs droits? Par exemple, les veuves des maris qui étaient fonctionnaires, après elles vont continuer à aller à l'administration pour toucher une certaine rente. On leur paye une somme, mais c'est pas toujours insuffisant.
Justement, c'est insuffisant, cette rente-là. Et moi, je crois qu'après la mort du mari, il faudrait qu'on puisse d'abord valoriser la veuve. Que la veuve puisse connaître ses droits. et ses devoirs.
Qu'on ne puisse pas la déposséder de tous les biens.
Exactement. Il ne faut pas qu'on la dépossède de tous ses droits, parce qu'elle a aussi droit de vivre. Parce que, vous savez, quand on perd un mari, on perd tout. On perd tout. On n'a plus aucun espoir dans la vie. Et c'est pourquoi nous devons nous mettre au diapason des autres personnes là pour pouvoir encadrer le veuve. Alors, c'est un problème très, 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 très crucial et je voudrais que ça soit un problème qui touche tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on est veuve, le lendemain, c'est l'autre qui peut-être sera veuve. Mmh. Et si elle ne prend pas garde, je crois que le même cas peut lui retomber demain. C'est pourquoi nous voulons que la veuve puisse se réveiller, qu'elle puisse connaître ses droits. Et nous demandons surtout à toutes ces personnes-là, que ce soit au niveau du travail du mari, que ce soit au niveau du travail de la femme, que ce soit partout qu'on puisse aider les veuves à connaître ses droits. Parce que quand on ne connaît pas ses droits, c'est difficile de se défendre. Mmh. C'est très dur de se défendre.
Quels sont les droits de la veuve, Maman Madou?
Le droit de la veuve, papa, c'est bien connu. C'est bien connu parce que la femme d'abord a droit à la moitié. Hein, quand le mari meurt, la femme a droit à la moitié de bien de son mari. Mais malheureusement, quand le mari meurt, au lieu même de laisser un petit rien à la femme, c'est la totalité des biens qui est partie. On jette la femme dehors, on jette les enfants, la famille du mari prend tout, et voilà comment maintenant la veuve est déconsidérée.
Voilà, nous rappelons aux auditeurs, ils peuvent nous appeler au 099-704-339, parce que le 081-891-63-94 ne marche pas ce matin. Mmh. Donc appelez plutôt à ces numéros, 099-704-339 pour participer. Donc vous avez dit, après la mort du mari, la veuve a aussi le droit à l'héritage.
Bien
à
sûr.
À une partie des biens.
Bien sûr.
Et on doit arrêter de la déposséder de tous les biens
qu'elle a
amassés avec son mari.
Bien sûr. Oui, oui. Moi, je crois que c'est un problème et que nous devons aider les veuves.
Mais le problème, c'est que les droits protègent même la législation protège les droits de la veuve, mais dans la pratique, dans la société, il y a autre chose qui se passe. Vous verrez les frères du mari venus du village, ils viennent, ils s'imposent, ils veulent tout prendre. La maman, pour protéger ses enfants, elle dit « Ah, bon, laissez tomber, on va refaire notre vie autrement. »
Oui, c'est ça. Maintenant, nous en appelons à la conscience de toutes les veuves. Nous en appelons à la conscience de ces mamans-là qui sont dans les champs aujourd'hui, qui sont parties, qui sont abandonnées à elles-mêmes. Et moi, je voudrais ici que toutes les veuves puissent se mettre ensemble, en fait, de défendre aussi leurs droits. Parce que quand on n'est pas unis, ça sera difficile que nous puissions défendre nos droits. Et là, vraiment, j'en appelle au cœur, vraiment, au cœur des autorités, parce que le problème d'abord, ce sont les autorités de notre pays. Moi, je crois qu'il faut d'abord qu'on puisse sensibiliser l'État, notre pays, pour qu'on puisse organiser, à prendre en charge toutes ces femmes-là, toutes ces veuves.
Voilà. Et par rapport à la rente ou l'allocation de veuvage qu'on paye aux veuves dans l'administration publique, un mot à dire là-dessus?
Bon, est-ce que vraiment il y a cette rente-là? Même si aujourd'hui on donnait cette rente-là, qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui par rapport au coût de la vie? Et je pense qu'il faudrait revoir. Il faudrait vraiment que l'État puisse, l'administration puisse revoir le montant qu'on alloue aux veuves, si ce montant-là existe encore. Mais tout ce que moi je voudrais dire, je voudrais que les veuves puissent se réveiller. Parce que si nous attendons aujourd'hui les rentes au niveau de l'administration publique, au niveau des sociétés de maris décédés, ça sera difficile. Vous aviez dit tout à l'heure comment il fait pour autonomiser la veuve.
C'est là
notre problème principal, c'est là notre combat.
Notre combat.
Oui, parce que si on vous donne aujourd'hui, demain, on ne vous donnera pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Alors, nous, on a un grand travail.
Il y a des veuves qui se débrouillent, qui vendent au marché, qui vendent pour faire vivre leur famille.
Oui, mais c'est ça. Il faut d'abord les recenser. Il faut les catégoriser, chacun avec une formation quelconque. Parce que pour que nous puissions nous prendre en charge aujourd'hui, il faudrait que chaque veuve puisse montrer de quoi elle est capable. Avoir ne fût-ce que une formation sur laquelle elle peut être utile. Si par exemple vous voulez travailler dans le bureau, nous vous recensons. Si vous savez faire quelque chose de léchant, alors nous avons réparti au niveau de l'UVM, l'Union des Reines Veuves dans le monde, nous avons réparti les veuves selon leur catégorie, selon ce qu'elles peuvent rendre comme service dans la société, en fait qu'elles soient autonomes. Mmh. C'est comme ça que nous travaillons en collaboration avec le ministère des Affaires Sociales, le ministère de l'Agriculture, Genre et Famille, Plan Développement Rural et ainsi de suite. Alors, nous voulons que la femme puisse s'élever, puisse dire non à la mendicité, non à la médiocrité, non à tendre la main. Nous voulons, parce que quand une veuve, quand vous êtes indépendant, je crois que vous attirez même le respect des autres vers vous. Mais quand vous tendez toujours la main, là vous êtes tenté de vous diminuer, de vous humilier, alors vous vous dévalorisez. Alors que notre objectif, c'est de valoriser la veuve à travers le travail. Et nous voulons que notre gouvernement puisse avoir un œil sur le veuve, organiser des structures qui peuvent engager le veuve, en fait qu'il puisse avoir un revenu qui peut lui suffire à se prendre en charge, à être indépendant. Parce que d'elle-même, la veuve n'a rien, surtout après avoir être dépossédée de tout, elle n'a rien, même si la bonne volonté est là, mais c'est difficile. Et c'est comme ça que nous nous sommes réunis, nous nous disons non à la mendicité et nous voulons qu'on puisse nous considérer comme des partenaires de développement dans notre pays. Il y a des veuves qui sont encore fortes, de 30 à 60 ans, et à 60 ans, j'en ai, mais je suis encore capable de faire quelque chose.
Voilà, donc nous rappelons les numéros de téléphone, appelez-nous au 099-706-43-39, 099-706-43-39, c'est le numéro par lequel vous pouvez participer à cette émission de la vie au quotidien. Donc Tati a changé encore tout à l'heure. 099-706-43-39, appelez-nous dès maintenant pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Alors si je comprends bien, Madame Mado Ekene, pour protéger les droits de la veuve, vous avez dit il faut d'abord les recenser, il faut les former et les aider à devenir indépendantes par l'entrepreneuriat, apprendre à exercer une activité.
Oui, exactement. D'abord, il faut renforcer ses capacités, des connaissances. Elle doit connaître ses droits. Oui, des formations, par des formations. Je crois que aujourd'hui, beaucoup d'organismes au niveau des Nations Unies sont en train de le faire, et nous-mêmes aussi nous le faisons, nous formons les veuves, comment il faut connaître ses droits, comment il faut se défendre, et surtout comment se rendre autonome. Parce que chaque fois qu'on dépendra des autres, ça sera toujours difficile. Voilà un peu les objectifs que nous avons, rendre à la femme sa valeur, et nous savons que la veuve, c'est une personne à féliciter. Vous savez, souvent, les veuves...
Elles se battent elles-mêmes pour prendre en charge leurs enfants.
Oui, bien sûr. Mais je crois que la femme doit travailler même du vivant de son mari. Il ne faut pas attendre que le mari meure pour chercher à faire quelque chose. Parce que là, vous êtes déjà avancé en âge. Et on apprend mieux quand on est jeune, mais quand on a un âge avancé. C'est pourquoi moi, je recommande aux femmes de travailler, même quand le mari est en vie, même s'il a une bonne situation, même si vous roulez dans le véhicule, vous ne savez pas ce qui vous attend demain. Mmh. Aujourd'hui, ceux qui sont rejetés dans la rue, jetés dans la rue, elles avaient aussi de belles situations. Elles avaient, ils roulaient carrosse, ils faisaient des voyages, mais aujourd'hui, si vous les voyez, même des femmes des autorités, des anciennes autorités, vous ne pouvez pas croire, vous les raconterez aujourd'hui. C'est à peine qu'on vous dit c'était la femme d'un tel, un tel. Et ça fait vraiment mal au cœur. Ça fait très mal au cœur. Si tous ceux qui sont à la base de tous ces problèmes-là, je crois qu'elles doivent quand même réfléchir, parce que la veuve mérite notre respect, la veuve mérite notre accompagnement, la veuve mérite notre, je le suis aussi, notre accompagnement. Il y a des veuves, par exemple, dans les quartiers, quand le mari meurt, il y a, si c'était des grandes personnalités, une fois qu'on les enterre, et puis c'est fini. Donc, il n'y a plus personne qui vient rendre visite à cette veuve-là. Pourquoi, je ne sais pas. C'est encore notre paire de manches que nous allons en parler très prochainement. Je crois qu'un petit bonjour, un petit sourire, une petite visite, ça fait beaucoup du bien, beaucoup du bien. Elle doit d'abord sentir qu'elle est encore aimée. Elle doit sentir que les gens s'intéressent à elle. Parce que perdre un mari, c'est la pire des choses qu'on puisse avoir sur cette terre. Celle qui n'a pas encore fait cette expérience-là ne peut pas mesurer les conséquences, la douleur. D'ailleurs, on dit 1 plus 1 fait 1. Mais quand vous perdez votre mari, vous restez une moitié. Mmh. Vous perdez même l'intelligence, vous devenez comme une feuille morte, une feuille séchée. Et vous êtes en train de marcher sans ici. C'est dur.
Oui, alors c'est
moi,
très dur,
ouais. Oui, moi je demande à ceux qui ont des veuves dans leur famille, aux enfants qui ont des mamans veuves, qui ont des tantes veuves, d'avoir un peu d'égard.
À leur égard.
À leur égard. Mmh. Une simple visite. Une simple visite,
ça fait beaucoup de bien.
Ça fait beaucoup de bien.
Alors, au sein de votre organisation, Union des Reines Veuves du Monde, quelles sont les activités que vous organisez régulièrement en faveur de ces femmes veuves?
Oui, parce que nous, ça fait pas longtemps, parce que moi, je le suis devenu le 20 janvier 2015, où je perdis mon cher mari. Mmh. Et je vous assure que ce ne sont pas des choses que je voudrais penser. Parce que quand j'y pense, ça me révolte. Je dis, Seigneur, pourquoi ça doit m'arriver? Mmh. Et je pense aussi à toutes ces autres là veuves. La douleur, la blessure, c'est vrai que devant comme ça, quand vous nous voyez, vous dites que bon, elle est bien. Mais à l'intérieur, la plaie est béante. Oui, oui.
Et qu'est-ce que vous faites quand vous recevez ces femmes? Vous leur donnez l'occasion de que chacun exprime son histoire, raconte son histoire?
Bien sûr, nous devons. Oui, oui, ça leur permet de se soulager et surtout maintenant de les encourager, de dire que stop. Maintenant, nous devons arrêter de pleurer.
De pleurer, oui.
Nous devons arrêter de quémander, de tendre le main. Nous devons d'abord nous valoriser parce que le veuvage, c'est aussi un état d'esprit. Parce que quand vous habillez, parce qu'il y a le manteau du veuvage, par votre habillement, par votre comportement, par votre façon de parler, quand vous restez avec ça, là, vous ne pourrez plus rien faire. Mmh. Alors, il faut enlever, il faut s'auto-délivrer d'abord soi-même, accepter, dire, Seigneur, c'est toi qui as permis, j'accepte, maintenant je vais marcher avec toi, conduis-moi là où je veux, donne-moi maintenant la force de subvenir à mes besoins et surtout aux besoins de mes enfants.
Alors, Madame Madou, qu'est-ce que vous faites au niveau de votre structure pour que la veuve ne soit plus déshéritée après la mort de son mari, qu'on ne vienne plus la ravir tout ce qu'elle avait comme bien?
Oui, là, c'est vraiment un combat. C'est pourquoi nous nous sommes organisés en cette structure-là. Parce qu'il n'y a pas seulement la valorisation, mais il y a aussi question de voir, d'identifier le problème. Mmh. Nous sommes en train de travailler avec certains avocats qui ont accepté de nous aider, les prodeurs comme on appelle, parce que quand une veuve est dépossédée, elle n'a pas les moyens, parce qu'aujourd'hui pour aller en justice, si tu n'as pas l'argent, il ne faut même pas essayer, hein, parce que les honoraires des avocats sont là, et tout ce qui se passe là, vous le savez aussi bien que moi, mais il y a quand même des avocats qui ont accepté, qui ont du cœur, qui ont peut-être des mamans, qui ont subi le même sort, qui ont accepté de nous accompagner dans ce combat. Nous sommes en train d'identifier tous les problèmes de veuves. Ceux qui ont été jetés dans la rue, ceux à qui on a arraché les biens, au niveau de...
Pourquoi on n'arrive pas à mettre fin à cette situation-là?
Mais c'est la bonne foi, tout simplement.
Arracher les biens de la veuve.
Mais ceux qui sont en train de le faire, papa, ils oublient que demain aussi, lui aussi peut partir. Sa femme aussi peut avoir, parce que tout ce que nous faisons, ça se paye ici.
Mais souvent, les veuves ont peur, disent non, il y a la sorcellerie dans la famille, on risque de manger les enfants.
Bon, je ne peux pas juger la sorcellerie parce que je ne connais pas la sorcellerie, mais tout ce que je dis, Dieu, c'est les défenseurs de veuves, Dieu, c'est les maris de veuves. Je crois que quand nous sommes dans l'endroit et si nous les revendiquons, nous mettons Dieu au devant, nous prions. Dieu est capable de nous rendre nos droits. Alors nous ne devons pas avoir peur des coutumes, parce que les coutumes tuent. Les coutumes vous aveuglent. C'est vrai, on utilise quand c'est bien pour les uns, quand c'est mauvais pour les autres. Oui, on met la coutume de côté. C'est pourquoi il faut se réveiller. Il faut lever les yeux. Il faut regarder droit. Connaissez, je sais que vous êtes un croyant, vous connaissez la Bible, vous connaissez l'histoire de la veuve unique. Quand il a suivi les juges, il revendiquait ses droits. Parce que la veuve connaissait ses droits. Mais si vous ne connaissez pas vos droits, comment est-ce que vous allez les revendiquer?
Voilà, donc il est important de connaître ses droits.
Très important. Ce que je voulais aussi dire, je voudrais dire ceci, et surtout aux maris, aux couples qui sont encore vivants, que ce soit la femme l'homme, ce n'est pas d'avoir un secret vis-à-vis de son conjoint. Plus les maris, parce qu'aujourd'hui, les femmes sont dépossédées tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu accès à tout ce que l'homme faisait. Il y a des fois où l'homme
qui cache des histoires.
Qui cache, papa, ils achètent.
Et après la mort,
oui,
la dame.
Ils mettent, par exemple, parce qu'ils sont dans des grandes sociétés, bon, oui. Ils ne veulent pas que son nom apparaisse, ils mettent au nom de sa mère, au nom de sa soeur, au nom peut-être d'un cousin, mais la femme doit être mise au courant. Au moins.
Mais pas au nom de sa femme.
Non, pas au nom de sa femme. Mais maintenant, comment la femme va revendiquer? Une fois que le mari est décédé, la mère ou la soeur...
Elle vient et dit non, c'est ma parcelle.
C'est à moi, on a acheté pour moi, mon
alors
frère a acheté pour moi.
Alors que la femme savait que c'était sa parcelle
mais
et
non,
celle de ses enfants.
La femme ne savait même pas. Il y a des fois où la femme sait, il y a des fois où le mari ne dit rien à la femme. C'est pourquoi nous disons que nous ne devons pas nous cacher des secrets quand on est en couple. Si la femme achète quelque chose,
elle dit
à son mari,
et si le mari achète,
oui, parce qu'après tout, c'est à vous deux. Mais si vous cachez, nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui ont laissé des milliards en banque. Et la femme n'est pas au courant, les enfants n'ont pas au courant, parce qu'ils n'ont pas donné l'information, ni à la femme, ni aux enfants qui ont grandi.
D'accord. Alors, Madame Mado, on va accueillir les auditeurs qui vous écoutent à travers la République. Esaïe Kabundi nous appelle de Mbujimayi et Jonas Kabinda de Kananga. Ils ont certainement des questions à vous poser. On va commencer avec Esaïe. Bonjour. Bonjour Esaïe.
Bonjour Monsieur Jody.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation est la suivante. Mais d'abord... je commence par un témoignage. Oui, ici en Mbujimayi, il y a beaucoup de femmes qui sont des veuves, mais elles sont délaissées à l'ère Christ sort, bien sûr, mais elles se promènent beaucoup sur la ville et ces femmes sont devenues des vraies témoindaires. Elles demandent de l'argent par-ci, par-là, et vous pouvez même constater qu'une telle dame-là, tu peux la donner l'argent même à 8 heures. À 9h, elle doit encore revenir sur ta plaque là pour te demander encore quelque chose. Vers 16h, c'est toujours elle là. Elle doit toujours passer là-bas. Donc, tu peux constater même pour toute la journée, tu peux même la regarder toujours elle là, même 4 fois, en train de demander toujours. Mais on finit toujours par donner parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent toujours en aide de ces femmes ici. On leur donne toujours quelque chose. Mais ces femmes ici n'arrivent pas toujours à arrêter leur mouvement ici.
Est-ce qu'il n'y a pas des structures là-bas à Mbujimayi qui encadrent les veuves?
Oui, il y a des fèves, on a des fèves là qui s'occupent pour l'encadrement des quoi, des veuves et des veuves, et aussi des enfants orphelins. Bon, on trouve pas que le nombre de ces mamans diminue sur la rue, mais ça augmente seulement, ça augmente même des enfants orphelins qui sont sur la route. Alors, je demande à notre invité comment elle peut prodiguer des conseils à ses mamans de Mbujimayi pour qu'elles deviennent autonomes. Parce que ce qu'on leur donne chaque jour, là, la femme se suffit elle-même, se dit non, que j'ai réuni au moins une somme au moins de 40 000 francs comme ça. Je commence même à vendre des braises, commence même à vendre même des cacahuètes comme les autres les font. Parce qu'elles sont devenues des vrais demandeurs. Donc, elles sont sur la route, donc tu ne peux pas respirer. De temps en temps, elles sont toujours à côté. Des gens, je voulais juste dire à notre invité. Merci.
Jonas Kabinda, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à tous les auditeurs.
Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre les veuves autonomes?
Oui, le problème de veuvage se pose avec Afrité sur la ville de Kananga. Et pour répondre anticipativement à la question que vous avez posée à mon prédécesseur, je veux dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de structure d'encadrement de veuves sur notre ville. Et je suis en train d'estimer que le nombre de veuves que nous pouvons avoir sur la ville de Baranga dépasse, je dirais, le nombre de papillons qui volent en l'air ici. Qu'est-ce que nous sommes en train de remarquer? Il y a beaucoup de veuves qui circulent des fois en groupe, elles se réunissent, elles circulent en groupe, elles vont devant les magasins pour commander. Et il y en a qui s'attroupent devant certains magasins sur la ville ici pour n'avoir que 100 francs à la fin de la journée. Elles peuvent faire, par exemple, 2-3 heures là-bas, quel que soit le soleil, en train d'attendre 100 francs qu'on peut leur donner. Et quand des fois vous essayez de poser des problèmes, des questions à ces moments-là, mais pourquoi, par exemple, vous ne pouvez pas aller au village travailler? Pourquoi vous ne pouvez pas vous occuper autrement que venir faire ce que vous faites ici? Est-ce que vous parvenez à subvenir aux besoins des enfants que vous avez? Elles vous diront, non, voilà, par exemple, ça ne convient pas d'aller au village, vu le rat de consort. Alors, et moi, je suis en train de placer le problème à deux niveaux.
Oui.
Il y a d'abord les familles. D'aucuns oublient que la mort, c'est une fatalité. Quand quelqu'un a perdu sa conjointe, ça ne suffit pas que, plutôt, quand la dame a perdu son mari, ça ne suffit pas qu'elle est devenue objet de moquerie. J'ai déjà vécu une famille ici, quand l'homme était en train d'agoniser, les membres de la famille de l'homme sont venus, ils ont commencé à dépouiller la femme de tous les biens, les biens de son mari. Et les enfants qui étaient dans ce toit-là,
Jonas,
ne parvenaient pas. Quand... Oui, allô?
Oui, vous êtes dans une salle où il y a beaucoup de bruit, peut-être vous éloignez de ce bruit-là.
Oui, je suis en train de m'éloigner, il y avait un groupe de gens quelque part.
C'est la radio.
Je ne sais pas si ça va maintenant.
Vous n'avez pas une radio allumée à côté?
Non, je suis en train de l'éteindre. Je suis en train de l'éteindre.
Voilà, il faut réduire clairement les volumes.
Alors, je disais que moi, j'attribue la faute, par exemple, aux familles qui oublient que la mort, c'est une fatalité. Et de deux, à l'État. L'État, par exemple, quand la femme a perdu son mari, quelques mois après, on coupe l'argent, c'est fini, et la dame ne bénéficie plus rien. Même les femmes des militaires, leur salaire, par exemple, arrive la solde. Les femmes des militaires, même sur la vie, se plaignent beaucoup du fait que toutes ces femmes-là ne bénéficient plus de la solde de leur mari.
Oui.
Donc, il faut que l'État prenne un peu en charge cette situation. Les veuves sont des personnes qui ont besoin de la vie. Et bon, toutes les familles qui sont déjà frappées par cette calamité-là ne savent pas se retrouver parce que tout simplement, il n'y a pas d'intervention. Et si dans notre pays, comme le disait tantôt l'invité, comme s'il y avait par exemple des structures qui pouvaient encadrer ces femmes-là, on ne trouverait pas ce qu'on est en train de vivre par exemple à Garang. Comme l'a dit mon professeur, beaucoup de gens vous embrouillent. Bon, vous passez à gauche, c'est papa tel. Des fois, ça fait pitié, ça fait mal, même si vous n'avez rien. Vous faites l'effort de donner malgré vous pour peut-être satisfaire la femme.
D'accord, merci Jonas. On a compris votre préoccupation. Donc, Madame Mado, vous avez suivi, que ce soit à Kananga, que ce soit en Mbujimayi, les veuves sont dans la rue en train de quémander et elles sont nombreuses, elles ne sont pas prises en charge, donc il y a encore beaucoup à faire.
Merci pour nos deux intervenants. Je voudrais d'abord saluer le veuve de Kananga et le veuve de Mbujimayi. Je sais que c'est une situation générale. C'est pas seulement à Kananga ou à Mbujimayi, mais dans tout le pays, que vous alliez à l'Est, même ici à Kinshasa.
Mm.
Et quand nous avons parlé de notre structure, justement, notre structure, c'est une structure plutôt qui doit encadrer le veuve dans tous les problèmes qui se passent. J'ai dit tout à l'heure, quand je voulais parler ici des droits de la veuve, avec les avocats que nous avons eus pour défendre les droits de la veuve, peut-être avec un petit rien. Et là, nous pouvons peut-être arriver à réduire le problème. Ils ont bien dit que le problème, c'est au niveau des familles, au niveau de l'État. C'est à deux niveaux. Je pense, même si vous voulez déposséder la veuve de tous ses biens, mais donnez-lui quand même les moyens pour commencer un commerce, pour commencer quelque chose. Parce que je ne peux pas entrer dans les coutumes. Parce que si je dis aujourd'hui, non, ils n'ont pas droit. C'est vrai, devant la loi, ils n'ont pas droit. Mais devant la coutume, parce qu'il y a des femmes qui ont perdu comme ça des enfants, parce qu'ils tout simplement, ils voulaient s'entêter. Ah oui, pour garder le bien de son mari. Alors, à ces femmes-là, qu'est-ce que nous allons dire? Mais les membres de la famille, ils ont quand même un cœur. Ils n'ont pas une pierre à la place du cœur.
Mais certains n'ont, apparemment, certains n'ont plus de cœur.
Mais ils n'ont plus de cœur, justement, mais je crois qu'ils les paieront tôt ou tard. Mais pour ces veuves-là, moi, je crois que, d'abord, je ne peux pas les condamner. Hein, ceux qui marchent dans la rue du matin au soir.
En train de quémander.
Oui, en train de quémander. Je n'encourage pas non plus. C'est pourquoi j'ai dit, du vivant, tant que nous sommes encore en vie, nous devons apprendre à travailler. On ne doit pas attendre
quand
que
le mari est encore là.
Oui, quand le mari est encore là, essayons de faire quelque chose. Et puisque nous sommes l'aide du mari, pourquoi nous allons laisser au mari toute la charge? Que lui-même et le mari fassent le tout. Nous, nous devons aussi apprendre à porter aussi notre aide pour aider aussi le foyer à aller de l'avant. Et je pense vraiment, c'est un problème que nous devons trouver des solutions.
Et au niveau du ministère des Affaires sociales, qu'est-ce qu'on fait exactement pour les veuves?
Bon, au niveau du ministère des Affaires sociales, c'est difficile. Je ne sais pas comment on peut trouver la réponse. C'est difficile.
Il y a sûrement un département qui s'occupe de l'encadrement de veuves.
Oui, bon, les structures, il y en a beaucoup. Hein. Chacun a son objectif. Chacun a son objectif pour encadrer le veuve. Mais moi, je voudrais ici vraiment en appeler à la conscience de l'État, des structures étatiques, parce que d'abord, mais pourquoi par exemple en Europe ou ailleurs, tout ça là, le problème ne se pose pas de la même façon qu'en Afrique? Parce que je ne parle pas de notre pays, mais au niveau de l'Afrique, le problème se pose. Pourquoi ailleurs ça ne se pose pas? Parce que l'État a bien prévu des mécanismes d'encadrement. Si ce n'est pas avoir des rentes régulièrement à la fin du mois, mais au moins, mais nous ici, nous sommes en train de pleurer pour la main-d'œuvre. Mais je crois que ces femmes-là peuvent aussi constituer de main-d'œuvre.
Mais il y a même des sociétés, quand le mari décède, on prend la femme.
Mais bien sûr, on prend la femme, mais ce n'est pas. Quand la femme n'est pas influente, quand elle ne connaît pas ses droits, quand elle n'a pas une famille
qui
peut aller
lutter,
quand elle n'a pas étudié, oui, c'est difficile. Moi, je me demande, par exemple, aujourd'hui, la ville est très sale. Mais nous avons tous ces veuves-là, ils sont des milliers ici. Pourquoi ne pas travailler en partenariat? On dit, par exemple, Maman Mado, tu en as combien? On les met à travers la ville de Kinshasa. Si vous arrivez aujourd'hui dans des bureaux, des grands bureaux des autorités, mais vous voyez que vous êtes vraiment, je ne sais pas, dans un bureau de cité. Alors que nous sommes en train de former. Parce que je vous ai dit, il y a seulement une année, 2 ans que nous existons. Avant, je ne pouvais pas comprendre parce que j'étais mariée en 75, à 40 ans, mon mari m'a laissée. Mais j'ai l'expérience d'une jeune fille, d'une femme mariée, aujourd'hui de la veuve. Je trouve que c'est un problème que tout le monde doit aider. Ce n'est pas seulement le problème de la veuve. Même ceux qui sont dans des bureaux aujourd'hui, demain leur femme aussi peut devenir veuve. Mais qu'on nous donne du travail, on ne refuse pas. Mais ces femmes-là, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Déjà, elle n'a même pas.
Mais si le travail est difficile, elles peuvent entreprendre, apprendre des activités génératrices des revenus.
Mais bien sûr,
Alors, je reviens à vous, Mamado, le temps d'accueillir 2 autres auditeurs. Kanyoka nous appelle de Kananga et Donatien de Kinshasa. Kanyoka, bonjour.
Bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, bon, je voulais un peu encourager la dame, parce que dans ses propos, je vois que la responsabilité doit être partagée. La responsabilité doit être partagée, c'est entre l'État et puis entre les veuves elles-mêmes. De l'autre côté, du côté de l'État, normalement dans un pays organisé, on devait prendre en charge toutes les veuves. On devait prendre en charge toutes les veuves, c'est ça même la façon de montrer que l'État veut évoluer bien et en voie de développement. Du côté maintenant, les veuves. Les veuves, bon, moi je vois que c'est une question de volonté. C'est une question de volonté parce que moi je relance ma propre histoire. J'avais une tante que mon père m'a montrée et m'a présentée avant de mourir. jusqu'à mon papa est décédé, j'ai vu que la tante était venue même au funérail, il pleurait avec moi, mon papa qui était parti. Quelques jours après, je l'ai trouvé avec un groupe de gens devant un magasin, comme mon prédécesseur l'avait dit. Je l'ai appelé, j'ai pas eu honte, je l'ai appelé, je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais ici. Donc je suis venu à combien les autres ont donné quelque chose. Je lui ai demandé, on vous donne combien. Il m'a parlé quelque chose de 100 francs ou 50 francs par jour. J'ai dit non, viens chez moi et je dois te donner quelque chose. Après lui avoir donné l'argent, pour qu'il achète soit la farine, soit la presse, pour commencer à se débrouiller, elle est retournée encore un jour, je l'ai encore trouvé là-bas. Vous voyez, c'est manque de volonté qui animait ma tante. Les veuves doivent avoir le courage et surtout la volonté de se déprier parce que on ne doit pas préparer cela quand le mari est déjà décédé, mais c'est quand il est vivant que vous devez commencer d'abord à préparer ces projets-là et le mettre en pratique quand le mari est
décédé. Alors, Kanyoka, vous voulez dire que c'est votre tante elle-même qui voulait tout simplement cette vie-là, aller quémander?
Je ne dis pas que je lui ai donné l'aide pour qu'elle participe là-bas et elle est retournée encore. Vous voyez que ce n'est pas un manque de volonté. Là-bas.
D'accord, merci. Donatien, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour aussi à notre invité.
D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre les veuves autonomes?
Oui, premièrement, monsieur Jody, je remercie vraiment notre invité. Et là, il était vraiment très clair dans ses explications. Je crois, sur ce sujet du jour, moi, je dirais que c'est vraiment bien de sensibiliser les mamans pour qu'elles connaissent leurs droits. C'est maman veuve pour qu'elle connaisse les droits. Mais moi, je dirais que cette sensibilisation, c'est seulement dans des villes. Par exemple, je suis ici à Kinshasa. Mais non, je ne sais pas, chez nous, là, par exemple, moi, je suis de droit, je dis pas là-bas en Pamba. Les mamans, vous savez, chez nous, les balous, quand le papa meurt, voilà, toute la famille du dessin arrive, quand tu viens là, et puis on dit à la maman, non, donnez tout ce que ton mari a laissé, la maman, donc normalement, il doit tout donner. Même c'est là des enfants, on ne pose pas des enfants, et donc et puis on lui dit si tu ne donnes pas, on va faire tout ce quoi là, vous savez, au-delà, il y a toujours des.
On va manger les enfants.
On va manger les enfants, ça c'est pas chez nous. C'est même pas petit média comme ça, on dit comme ça, puis la maman n'a pas, bon, elle n'a pas, elle ne sait quoi faire, elle ne sait quoi faire, bon, elle va tout donner. Et puis moi je dirais que c'est aussi. Bon, c'est bien de sensibiliser, mais je voudrais demander à l'invité, je vous dis seulement poser une question. Quand est-ce qu'on peut commencer à compter que telle est-elle, par exemple, c'est à partir de quel âge? Parce qu'aujourd'hui, on voit, même ces mamans-là, elles ne savent plus se concentrer, même si elle n'a pas son mari, si son mari décède, même si son mari meurt, mais elle peut aussi se concentrer, travailler et faire autre chose. Mais vous voyez ces mamans-là, justement, quand le mari meurt, justement, il commence à faire des pratiques de l'incrédulité dans la ville, de la misère. On ne sait pas expliquer.
Mais d'accord.
Je remercie vraiment notre invité pour ce sujet du jour et ses explications.
Merci. Nous avons en ligne Rachel Mujenga, pardon, nous a écrit sur la page Facebook de l'émission Capi Service. Elle est à Lubumbashi. Elle dit la charge est partagée. D'une part, celui qui peut mieux aider une veuve à s'épanouir pendant son veuvage, c'est l'homme, son mari, pendant qu'il est encore vivant. Ce qui fait qu'une femme, une fois veuve, tombe dans la mendicité, c'est la non-préparation de la part de l'homme. Par peur de la mort, certains hommes refusent de parler de ce que deviendra l'un si l'autre meurt. Cette peur fait à ce que l'homme n'ait pas l'occasion de planifier quelque chose pour sa femme. D'autre part, la femme elle-même doit faire quelque chose pendant que son mari est encore vivant. Par exemple, investir dans des activités commerciales. Ma question, une femme peut-elle épargner de l'argent à l'insu de son mari pour assurer son veuvage lorsque celui-ci ne sera plus? Madame Mado.
Merci beaucoup pour nos auditeurs. Je voudrais d'abord répondre aux deux précédents avant de répondre à
Rachel.
À Rachel, parce qu'elle, c'est une femme. Elle a dit que la sensibilisation, c'est au niveau de, seulement ici de Kinshasa. Oui, c'est vrai, mais je venais de lui dire que moi, c'est une mission que j'ai eue de la part de Dieu. Je ne voulais pas en parler aujourd'hui parce que c'est vraiment une longue histoire. Une histoire qui date de 35 ans. Et je crois que quand j'avais seulement 5 ans de mariage, peut-être que les gens ne comprendront pas, ça sera pour une prochaine fois. Mais nous n'allons pas nous arrêter seulement au niveau de Kinshasa, parce que notre objectif, c'est d'aller dans toutes nos provinces et de, dans les fins fonds
dans
de
les
notre
villages,
pays, dans les villages, oui, dans les groupements, à travers le pays justement. Parce que le problème commence d'abord par la sensibilisation. Vous pouvez aujourd'hui donner à quelqu'un l'argent, comme il a dit notre
interlocuteur, sa tante. Il a donné à sa tante un peu d'argent, elle est rentrée
quémandée. Oui, c'est parce que la tante n'est pas sensibilisée, oui. La tante n'est pas encadrée, et la tante, elle est seule. C'est pourquoi on dit l'union fait la force. Parce que quand nous sommes ensemble, nous nous partageons des expériences. Et nous n'allons pas oublier non plus, parce que si les uns, les unes aujourd'hui quémandent, mais il y a ces braves veuves-là, à qui le mari n'a rien reçu aujourd'hui, qui ont élevé les enfants dans les difficultés, qui ont fait étudier les enfants, et les enfants aujourd'hui sont de grandes personnalités dans ces pays. À ces veuves-là, on va dire bravo. Voilà les exemples que les autres veuves doivent s'inspirer. Mais quand vous êtes une veuve, vous restez seule dans votre coin, vous ne savez pas quelle est l'expérience des autres, qu'est-ce que vous devez faire pour vous rendre autonome, c'est difficile. C'est pourquoi le Seigneur nous a demandé de créer cette union. Cette union va permettre à la veuve de se réveiller. Cette union va permettre à la veuve de se mettre debout, de ne pas seulement... Cette union va nous permettre aujourd'hui d'être des partenaires, des agents économiques pour développer notre pays. C'est une main d'œuvre que l'État est en train de négliger. Une main d'œuvre peut-être qui coûte moins cher, mais qui peut rentabiliser aujourd'hui. Vous savez que aujourd'hui, le gouvernement, il a comme mission, hein, notre premier ministre, que, avec tout le respect, aujourd'hui, il a la mission du social. Mais pour tester le social, qu'est-ce qu'il faut regarder? Je crois qu'il faut d'abord commencer par les personnes vulnérables. Les personnes vulnérables, les veuves et les orphelins. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les veuves et les orphelins sont pris en considération? C'est difficile parce qu'il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue entre le gouvernement et les personnes concernées. Nous avons, disons, des idées. Nous avons des propositions. Oui. Parce que quand vous dialoguez, vous pouvez trouver des solutions. Vous pouvez trouver des remèdes.
D'accord. Mais quand alors, on va y revenir. Rachel dit, est-ce que du vivant du mari, est-ce que la femme peut commencer à mettre de l'argent de côté, à épargner, pour que si le mari disparaît un jour, elle peut recourir à cet argent-là pour survivre ou pour commencer
mais
une activité.
Mais on ne met pas de l'argent seulement pour que quand le mari meurt, parce que vous aussi, vous pouvez mourir, la femme aussi meurt, elle peut mourir aussi
avant le mari.
On met seulement l'argent de côté pour le vieux jour, pour pendant qu'on est encore en vie, on est sur cette terre, qu'on puisse survenir à ses propres besoins. Parce que les enfants, quand ils grandissent, ils ont aussi leurs besoins. Et encore, si vous trouvez, vous avez des garçons, si vous trouvez des garçons qui ont de bonnes femmes, tant mieux. Mais souvent, on est taxé quand, une fois que le garçon prend une femme...
Avec le conflit belle-mère et
vous
belle-sœur.
Vous êtes taxé de sorcier, vous êtes taxé de tous les maux.
Compliqué.
Et même vos petits-enfants, regarde la mamie, kokonabino zakandoki. Là, on vous délaisse. Alors, pour être autonome, il faut seulement épargner. Épargner seulement, c'est pas... voir seulement la mort, mais on épargne seulement dans la vie. Et vous devez travailler. Je suis en train d'insister parce que
du vivant du mari, les femmes doivent apprendre à travailler, à se lancer dans l'entrepreneuriat.
À se lancer dur dans l'entrepreneuriat, plus que le mari même. Parce que si la femme meurt, le mari n'a pas autant de difficultés que si c'est le conjoint disparaît.
D'accord.
Parce que lui,
reviens à vous, on va accueillir Debernice Moulaba de Mweneditu et ingénieur Mango de Kinshasa. Debernice, bonjour. Debernice, bonjour. Allô, Debernice.
Au Capi.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Vous êtes à Mweneditu, on vous écoute.
Ok, ma préoccupation est la suivante.
Veuillez fermer votre radio. Debernice, vous êtes à côté d'une radio à côté. S'il vous plaît, veuillez réduire le volume ou bien fermer carrément la radio et vous allez suivre à partir du téléphone.
Ah, ok. Donc, ce que je peux dire, que la femme veuve puisse épargner son compte. Ce que moi je voulais dire est que il s'agit seulement de provoquer quand même des formations, hein, lorsqu'il y a des formations, la faire épargner ses montants et il doit voir qu'est-ce qu'elle peut faire. Et ensuite, j'aimerais un peu savoir, supposons par exemple une veuve qui a 80 ans, prenons l'exemple, est-ce la femme aura le travail, aura aussi la force de travailler pour épargner l'argent ou soit qu'est-ce qu'elle doit faire aussi à ce niveau-là?
D'accord, merci. Ingénieur Bangoyo de Kinshasa, bonjour.
Bonjour aujourd'hui.
On vous écoute.
Merci. Je salue d'abord notre invité. Bon, aujourd'hui, moi, je crois que le problème des veuves est sérieux dans notre pays. Nous avons l'impression que vous avez tout à l'heure là parlé du ministère des Affaires sociales. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si il vous est déjà arrivé d'aller là où on paye les rentes de veuvage. Mais c'est triste, c'est malheureux. C'est moins de 5 000. Et imaginez-vous une veuve qui quitte Massina, qui quitte une ville. Elle vient, par exemple, à Ngaliema ici.
Elle passe toute la journée.
Toute la journée, elle est là. Il faut le voir aujourd'hui. C'est pénible. Alors, je voudrais m'adresser à notre invité. Oui, elle parle des femmes, des veuves qui doivent se prendre à charge, qui doivent apprendre, c'est bien bon. Mais il s'agit de quelles veuves? Il y a des veuves, par exemple, qui, à l'âge de 70 ans, de 69 ans, vous ne pouvez pas demander à une veuve comme ça, de 69 ans, 70 ans, d'agir en tant qu'entrepreneur, comme une femme et une veuve, c'est pas moi, de 25 ans, de 30 ans, 40 ans, c'est différent. Donc je crois que la lutte, au lieu que les femmes continuent à parler de la parité, parité, je crois, voilà le problème auquel les femmes doivent s'attaquer. Responsabiliser l'État, sous notre cieux, hein, sous notre cieux, la politique sociale est telle que lorsque une femme, elle est veuve, mais on s'occupe d'elle. Il y a des structures qui doivent s'occuper d'elle. Ils doivent faire des pressions au niveau de l'État au lieu de crier tout le temps parité, parité, parité. Parce qu'il y a des femmes qui ont un certain âge. Elles ne peuvent plus travailler, malheureusement. Alors, celle-là, elle doit être prise en charge. Surtout si elle a des enfants, même s'il n'a pas d'enfants. Vous voyez ça? Donc, moi, c'est vrai que la responsabilité est partagée, mais ici, je m'adresse beaucoup plus aux femmes qui crient à longueur de journée au Parlement, dans les structures, tout ça, et doivent prendre à bras le corps ce problème, essayer de responsabiliser l'État comme cela se passe sous notre cieux. Voilà aujourd'hui ma préoccupation.
Merci, ingénieur Mangoyo. Madame Ado.
Oui, notre invité a tout à fait raison.
L'intervenant.
Je crois que oui, l'intervenant plutôt, il a tout à fait raison. Et je crois que ça fait partie de notre combat. Parce qu'ici, on ne vient pas étaler tout le programme, mais ça fait partie de notre combat. Et nous allons y arriver. Parce que quand il dit que c'est vrai, il y a des veuves de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans.
Oui.
Toutes ces veuves-là, on est tenté de les catégoriser. Il y a des veuves qui ne peuvent plus rien faire. Hein, qui sont avancés en âge, là nous sommes en train de chercher qu'est-ce qu'il faudrait
mais
faire.
Mais celles qui sont jeunes peuvent encore travailler.
Oui,
elles
ont encore la force et c'est pourquoi nous disons que il faudrait que nous puissions parler avec le gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces veuves-là?
Alors, Madame Ado, on n'a plus beaucoup de temps,
oui.
Mais au moins, je veux vous demander de donner votre numéro, téléphone.
Oui.
Peut-être qu'il y a des veuves qui ont entendu votre message et qui voudraient intégrer votre association. Elles peuvent vous contacter à quel numéro?
Oui, parce que on a un numéro, c'est le 09 04 27 50 52.
09, 04, 27, 50,
52.
52.
Ils peuvent nous contacter parce qu'il y a vraiment des très grands projets.
Que vous pouvez faire ensemble.
Oui, oui, que nous pouvons faire ensemble. C'est comme ça que nous disons, l'union fait la force.
L'union fait
la
force.
Tant que ces veuves-là vont être seules, sans encadrement, sans entrer dans une structure,
ce sera
difficile.
D'accord.
Donc là, on est en train de former, d'informer, d'encadrer et peut-être dans quelques années, on va rendre, parce que ce n'est pas le problème de tout de suite.
D'accord.
On va essayer quand même de trouver une solution.
D'accord. Merci beaucoup, Madame Mado Ekene, ou Amaluka, promotrice de l'Union des Reines Veuves du Monde. À la prochaine.
Merci beaucoup.